Vous écoutez France Musique.
Et bonsoir Thierry Beauvert, passez de très belles vacances, attention aux coups de soleil et à très bientôt.
Oui, notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti.
Moi, j'aime pas les types de mon âge qui disent j'aime les jeunes.
La difficulté de devenir soi-même prend un sens concret et même parfois très violent.
Mais enfin, c'est impossible. Le tennis, c'est pas ça.
Bonsoir, bienvenue dans Le Parti d'Anjou qui est le dernier de l'année, le dernier tout court. Merci d'être avec nous ce soir et d'avoir été à l'écoute depuis 2 ans des confidences des jeunes musiciens. Le Parti d'Anjou, c'est le contre-pied du « joue et tais-toi ». C'est une parole qui fait face à ses doutes musicaux ou existentiels, qui joue le jeu d'être en phase avec son âge, avec ce que l'on est profondément. Ce soir, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un violoniste qui ne déroge pas à la règle d'un parcours assez atypique, précoce prodige. Avoir des facilités pose souvent des questions, il a le bon âge pour nous répondre. Ravi d'accueillir Virgile Boutelis et bienvenue à vous.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour la vie.
Et bienvenue à vous, Virgile Boutelis, bonsoir.
Bonsoir Edouard.
Est-ce que vous avez déjà pris une décision en fonction d'un état amoureux? Est-ce que l'amour vous a porté loin?
Oui, c'est arrivé, c'est déjà arrivé.
Dans quelle situation?
Disons, je suis... On va le voir tout à l'heure, mais je suis parti vivre en Israël par amour.
Alors, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, il y a plusieurs choses qui étaient assez hallucinantes, notamment votre rapport aux langues, parce qu'il y a aussi, on va le voir dans votre parcours, différents passages dans plusieurs pays, très tôt. La première fois que vous êtes parti de chez vous, vous aviez quel âge?
Que je suis parti m'installer à l'étranger, j'avais en fait près de 18 ans. Et là, je suis parti à Budapest. Et puis après, oui, je suis parti dans plusieurs autres pays pour continuer mes études, pour jouer. Et ça m'a mené dans pas mal de pays.
À quoi ressemblent vos journées? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous lever, à faire 2 heures de gamme et puis...
Non, ça dépend. En fait, ça dépend des voyages, ça dépend d'où je me trouve. Non, je ne suis pas du tout du genre à faire 2 heures de gamme. Ça m'arrive d'en faire quand même. Mais j'aime bien aussi commencer la journée directement par un concerto, pas chauffer
facile
du tout. Non, pour se mettre en situation. Et si on peut jouer certaines pièces comme ça au lever, ça veut dire qu'on peut les jouer dans toutes les situations. D'ailleurs, un de mes professeurs me conseillait de me lever la nuit pour jouer les pièces les plus difficiles.
C'est un professeur russe?
Non, un professeur albanais. Et lui-même, d'ailleurs, réveillait son fils la nuit pour lui faire jouer ses programmes avant les concours. Mm. Enfin, c'était une méthode très dure, mais en même temps très efficace et puis très généreuse.
Alors, on va ouvrir votre partie d'Anjou avec quelque chose qui vous tient très à cœur, puisque c'est votre première très grande émotion musicale, connexion avec le son, Yehudi Medouin dans Bach.
Thank you.
Et bienvenue dans le parti d'en jouer de Virgile Boutelis que nous ouvrons avec le Herbarmody Mein Gott de la Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach dans une version tout à fait particulière. 1947, normalement, égale image. Hein. C'est le Magic Concert 1947 que vous avez apporté, Virgile Boutelis, avec pas la contralto la plus connue de l'époque, hein, Eula Béal, mais surtout Yehudi Menuhin, Antal Dorati à la tête du Symphony Orchestra de Hollywood, dans les studios de Charlie Chaplin. Et alors là, on parlait de première émotion. Est-ce que vous pourriez, en vous adressant vraiment aux auditeurs, raconter la substance de cette première émotion musicale ?
Oui, ben, d'aussi loin que je me souvienne, il y avait toujours de la musique à la maison. Mais cette interprétation de la Passion selon Saint Matthieu par Menuhin, c'est la première émotion musicale où le violon apparaît, ou l'une des premières émotions. Je ne pourrais pas dire exactement quel âge j'avais, mais j'étais bouleversé, j'étais très ému. Et c'est pas à ce moment-là que j'ai commencé le violon. Ça vient plus tard, La rencontre physique avec l'instrument vient un petit peu plus tard.
Lors d'une bagarre avec ses sons.
Non, c'était pas une bagarre, en fait.
Vous êtes cinq garçons quand même.
Cinq garçons, à la maison. Je suis le plus jeune. Et en fait, c'était lors d'un jeu de cache-cache. Et je m'étais caché sous un lit et il y avait un étui à côté de moi, sous le lit. Et j'ai voulu voir ce qu'il y avait dans cet étui. C'est là où j'ai découvert le violon. Et là, ça m'a intrigué. Je trouvais déjà l'objet magnifique. Et c'est là que j'ai demandé à mes parents d'en jouer. Finalement, c'est venu assez naturellement parce que tous mes frères, moi j'étais le plus jeune, mais tous mes frères faisaient déjà de la musique, donc, et pas du violon, ils faisaient d'autres instruments, le piano, violoncelle, flûte, saxophone. Et donc ça s'est fait naturellement et c'est là où j'ai demandé à mes parents de commencer la musique et le violon.
Alors au-delà des frères qui ont aussi tous fait de la musique, mais qui maintenant font d'autres métiers, est-ce qu'il y a des musiciens dans la famille avant vous ?
Avant moi, oui. Mon arrière-grand-père était violoniste. Mon grand-père était médecin, mais aussi violoniste. Et disons qu'après, le violon familial s'est tu. Et puis il a repris avec moi.
Thank you.
Magnifique Ginette Neveu avec Munch en 1949 dans le poème de Chausson. Si vous nous rejoignez sur France Musique, nous sommes avec Virgile Boutelis, violoniste, dans Le Parti d'Enjouer, le vôtre. Et en réalité, c'est vrai qu'on va reparler hein, de Ginette Neveu, mais un petit peu sur votre enfance, vous nous avez dit « le violon s'est tu ». En réalité, est-ce qu'il ne faudrait pas dire « on l'a fait taire, le violon, dans votre famille ?»
Oui, c'est plutôt l'histoire qui a fait taire le violon familial.
Quelle histoire ?
Je dirais les vicissitudes de la vie.
Bon, moi, si je suis auditeur, je ne comprends pas tout. Hein.
Et disons qu'il a repris son chant avec moi. Et donc, quand j'ai commencé...
Deuxième guerre mondiale. Pour être
ouais.
très clair.
Oui, pour être très clair. Et donc après, c'est là où j'ai commencé le violon, avec un très mauvais professeur.
Mais ça, on s'en rend compte quand on commence ?
Ben, je me rendais compte qu'elle n'était pas très aimable, qu'elle était assez ennuyeuse. Et c'est là où j'ai demandé très vite à mes parents de changer de professeur. Et je pense qu'ils étaient très contents, parce que beaucoup d'enfants demanderaient à arrêter le violon, malheureusement, quand ils tombent sur un mauvais professeur. Et là, ils ont vu que j'aimais vraiment beaucoup le violon, parce que j'ai demandé à un autre professeur. Et ils m'ont trouvé un jeune professeur, très sympathique, très enthousiaste, et qui m'a fait travailler, qui m'a fait aussi beaucoup aimer le violon, et qui m'a fait rentrer au conservatoire de Tours.
Parce que vous habitiez donc près de Tours, à Loches.
Près de Tours, à Loches, à l'époque.
Alors, Ginette Neveu, c'est vrai qu'en parallèle du violon, vous faites aussi du piano. Et votre première professeure, je crois, au conservatoire de Tours, était condisciple, c'est ça ?
Disons que c'était ma première professeure. Elle n'était pas au conservatoire de Tours. Elle habitait cette ville, Loches. Et c'était une dame de plus de 80 ans à l'époque, qui avait été une condisciple de Ginette Neveu. Elle m'en parlait très souvent, d'ailleurs. Et c'est avec elle que j'ai appris le piano. Et en même temps, elle m'a fait découvrir la musique de chambre. Elle avait fait de la sonate avec Ginette Neveu. Et elle m'a fait aussi beaucoup aimer la musique de chambre. Nous jouions souvent des sonates ensemble. Pas des grandes sonates, parce que j'étais très jeune. Donc c'était du Tartini, du Corelli, certaines sonates de Mozart. Mais qui sont quand même des grandes sonates. Mais bon, jouables pour l'enfant que j'étais. Et elle m'avait fait écouter cet enregistrement du poème de Chausson par Ginette Neveu.
Qui pour vous est un bijou, auquel on ne touche pas, c'est-à-dire comme au musée, comme oui, on regarde mais on ne touche pas. Quoi.
Ça m'avait comme fasciné, Italie, ça m'avait beaucoup fasciné, oui.
Alors merci d'être avec nous, Virgile Boutelis. C'est vrai qu'on va aborder aussi l'esprit peut-être de compétition, aussi une forme d'apprentissage assez pas musclée, mais en tout cas celle que vous allez décrire juste après avoir écouté ce concerto de Jean-Baptiste Accolaï.
Thank you.
Partie d'en jouer de Virgil Boutelis ici, Itzhak Perlman avec l'orchestre de la Juilliard School, Lawrence Foster, dans ce concerto de Jean-Baptiste Acolai, qui est mort en 1910, et qui est un concerto alors, qui a une histoire particulière pour vous, hein, Virgil Boutelis, parce que donc on laisse de côté l'apprentissage heureux et malheureux avec deux professeurs différents à Tours. Et puis, un jour, vous regardez la télévision.
Très heureux, c'était juste les premiers mois. La première,
en tout cas.
Mais après, très heureux.
Très heureux. Et donc, vous regardez un reportage à la télévision. On vous voyait qu'à Gradignan, dans le sud de la France, Robert Papavrami a une école un petit peu particulière.
Voilà, à cette époque, j'étais au conservatoire de Tournes. Je faisais encore en parallèle le piano et le violon. Et c'est là où, oui, je suis tombé sur un reportage sur l'école de Robert Papavrami. Et ça m'a subjugué de voir ce qu'il réussissait à obtenir avec tous les jeunes enfants là-bas qui jouaient merveilleusement bien. Et j'ai tout de suite dit à mes parents que je voulais le rencontrer. Finalement, j'ai envoyé une vidéo. Et après quelques jours, il a appelé et il a dit avec son accent caractéristique albanais que je ne pourrais pas imiter, il a dit qu'il vienne. Et donc là-bas, je suis allé, j'ai fait de nombreux séjours, j'étais un élève invité et... C'était un excellent pédagogue, il était très rude, mais il était aussi très positif, très généreux. Et ce concerto, j'ai travaillé avec lui, en fait.
Pour tous les enfants travaillaient ça ?
Oui, tous. Mais pour l'enfant que j'étais, j'avais l'impression de jouer un grand concerto, ça m'avait transporté. Pour moi, c'était une œuvre magistrale, j'avais 9 ans. J'avais l'impression de prendre mon envol, enfin, de faire un grand concerto.
Est-ce que vous pourriez raconter un petit peu l'organisation de ces journées-là ? Parce que c'est quand même particulier dans la méthode.
La méthode était très particulière, elle était critiquée. C'était une sorte d'horaire aménagé, ou alors les enfants étaient au CNED, au cours par correspondance. Moi, je faisais partie de ceux qui étaient au cours par correspondance. Et tous les enfants étaient à l'école pour le violon, avec lui, entre 8h et midi et demi. Donc entre 8h et 9h, c'était l'échauffement collectif. Tous les
Donc
enfants en cercle,
30
enfants,
enfants
qui jouaient, des cordes à vide, des exercices de tri, de vibrato. Et une fois cet échauffement terminé, chacun avait un studio et allait travailler leur répertoire pour après revenir toutes les 20 minutes, 30 minutes, lui jouer pendant 10 minutes quelque chose. Il nous renvoyait travailler, on revenait parfois sur la même œuvre, parfois d'autres œuvres. Donc on le voyait comme ça 4-5 fois tous les matins. Et c'était une très bonne méthode de travail, ça marchait très bien. Quand je dis on avait tous un studio, c'était pas non plus, ça manquait un petit peu de place, donc il y avait des enfants dans les couloirs partout, enfin il y avait du violon partout. Bon, sa méthode était parfois décriée, c'est-à-dire il avait un exercice par exemple de virtuosité.
C'est le fameux page 39.
C'était tiré d'un livre d'un rocailleur
russe.
Page 39. C'était un exercice de virtuosité, et en fait on l'apprenait tous bon par cœur. Et après, l'exercice se passait comme ça. On était tous en cercle. Et un par un, on se levait, on le jouait. Il avait un chronomètre digital très précis. Et il nous chronométrait. Il fallait le jouer, bien sûr, très bien, très précis, avec un beau son, tout ça.
Mais le plus vite possible.
Le plus vite possible.
Et ça variait de combien à combien ?
C'était énorme, les variations. Ça variait de 32-33 secondes à 17 secondes pour les plus rapides. Donc voilà, mais donc tout le monde pensait que ça pouvait donner un esprit de compétition, pas du tout à cet âge-là, c'était une belle émulation et puis c'était un jeu pour les enfants que nous étions, c'était pas du tout une compétition imbécile comme on peut voir parfois. Non, c'était toujours pris comme un jeu et c'était... Il m'a aussi appris la relativité des choses parce qu'il considérait vraiment le violon et l'archet comme un objet pour apprendre, surtout pour les enfants, c'était pas non plus des Stradivarius qu'on avait, mais... Et donc, ça lui arrivait d'éplucher les archets avec un couteau. Il enlevait toute Disons qu'il allégeait les archers à coups de canif pour qu'on se fatigue moins le bras droit. Un jour, il trouvait que mon violon était trop grand, pareil, ça allait trop me fatiguer. À ce moment-là, je n'étais pas avec lui, il m'a envoyé par la poste un violon dans un carton, simplement avec du papier à bulle autour. Bon, le violon est arrivé dans un état, je ne vous raconte pas. J'ai dû aller chez un luthier pour le recoller, le réparer. Mais bon, déjà à l'époque, je passais beaucoup de temps chez le luthier local parce que j'avais développé vraiment un intérêt pour l'instrument, la réparation, restauration. Et j'y passais pas mal de temps libre dans l'atelier, vraiment, à participer, nettoyer les instruments, participer à toutes les réparations. Avec un luthier vraiment adorable à Tours, qui s'appelle Alain Pignou.
Si parmi vous, il y a des auditeurs arméniens qui nous écoutent, qui écoutent ce parti d'en jouer avec vous, Virgile Boutelis, cette musique, Krunk, la grue de Komitas, doit avoir une résonance toute particulière, si ce n'est dramatique, puisque Virgile Boutelis, un des pouvoirs de la musique, c'est aussi que quand on joue un peu dans le monde entier, on rencontre une écoute qui est à chaque fois particulière. Et c'est vrai que, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire,
j'ai découvert cette musique? En fait, à 12 ans, après, je suis rentré au Conservatoire de Paris et c'est là où j'ai fait la connaissance d'une jeune pianiste arménienne, une pianiste remarquable qui s'appelle Nairi Badal, que vous devez connaître, et dont la grand-mère m'a fait, disons qu'elle m'a fait découvrir cette pièce de Comitas, Comitas en général, et cette pièce, La Grue. Et c'est une pièce très émouvante, bien sûr, et qui a une résonance particulière. Et nous l'avons beaucoup joué ensemble, et après, par la suite, je l'ai joué dans pas mal de pays, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Et oui, c'est là où j'ai pu découvrir le pouvoir de la musique.
Pourquoi ? Parce que des gens venaient vous voir en pleurs ?
Parce qu'après chaque concert, il y avait, pas toujours en pleurs, mais il y avait au moins un Arménien, une Arménienne qui venait me remercier d'avoir joué la pièce, parfois avec des larmes dans les yeux. Et bien, comme vous savez, cette pièce, elle évoque la mémoire du génocide arménien. Comitas, d'ailleurs, a été une des victimes du génocide. Il en a perdu la voix, il en a perdu la raison, il a été déporté en 1915. Et quand je joue le Golung de Comitas, c'est avec la même émotion que, par exemple, le Nigun de Bloch. Donc voilà, et ça a été très important pour moi, cette pièce. Et je la joue encore, soit dans les programmes, soit en bis, dans mes concerts.
Alors c'est vrai qu'on parlait de l'enseignement de Robert Papavrami, et donc vous êtes au CNR de Paris, vous avez entre 12 et 16-17 ans, et puis c'est vrai que dans son enseignement, Robert Papavrami est conscient qu'il donne toutes les clés pour avoir une main gauche absolument incroyable, donc la main gauche qui appuie sur les cordes, et puis que d'un autre côté, il faut aussi harmoniser cela avec la main droite, avec une souplesse de l'archet, une force, enfin...
Oui, disons, quand j'étais chez Papavrami, c'était entre 9 et 12 ans, juste avant de rentrer à Paris. Donc il était vraiment exceptionnel pour la main gauche, il nous donnait une belle technique de main gauche, mais il était aussi très modeste. Il nous disait, encore avec son accent, il nous disait « je suis excellent pour la main gauche, mais pour la main droite, va voir quelqu'un d'autre ».
Et c'est rare, un professeur
qui va vraiment être...
Et donc, en fait, dans cet âge-là, vers 14-15 ans, vous
non,
dites...
Non, là, j'avais, quand il m'a dit ça... C'était tout du long de l'apprentissage avec lui. Il était très conscient qu'il était bon pour la main gauche, pas pour la main droite. Et il comptait sur d'autres professeurs pour nous apprendre une belle main droite, c'est-à-dire la technique de l'archet. Et donc après, je suis parti à Paris. Et peu de temps après, j'ai rencontré lors d'un stage un professeur qui a beaucoup compté pour moi, qui s'appelle Geza Kapash, professeur hongrois. Et il avait une folie positive, un enthousiasme... Et aussi, bien sûr, il avait une grande imagination musicale, mais il était incroyable pour sa main droite. Et ça tombait vraiment
ça
aussi très bien.
Ça tombait bien, c'est le yin et le yang.
Donc on peut dire que finalement, ma main gauche, c'est Papavrami.
Et la main droite,
c'est
Geza Kapash. Est tzigane, c'est ça ?
Parce que donc... Non, il n'était pas devenu tzigane, mais il était... Et entre les deux mains, c'est moi qui fais la main.
Et donc vous rencontrez, vous restez un an à Budapest vous...
Non, en fait, j'ai rencontré Geza Kapash... très jeune, et vers 13 ans, et il m'a invité à venir le rejoindre à Budapest.
Et vous y allez à 18 ans après le bac ?
J'y vais à, 17 ans. Je finis à Paris, après le prix à 16 ans, je fais une année de département soliste en attendant mon bac. Et une fois le bac en poche, et notamment grâce à la fondation de la vocation, Blechstein-Blanchet, là je suis parti le rejoindre à l'Académie Franz Liszt de Budapest. Thank you.
bien, ce n'est pas Beethoven qui aurait écrit une cadence de concerto comme cela, quoique l'Alouette de Grigoras Dinicou, qui est connu aussi pour le Horace Staccato, très souvent joué par notamment l'Akatos et la famille, ici interprété avec brio, si rien de le dire, par Ferenc Santa et son Gypsy Band. Alors l'Alouette, pour vous, Virgile Boutelis, ça évoque aussi, et j'aurais aimé avoir une petite caméra pour avoir filmé ces moments où vous jouiez avec deux frères tziganes que vous aviez rencontrés à Budapest dans un café littéraire.
Oui, ça me rappelle mes soirées à Budapest. Parce qu'à Budapest, je passais ma journée, bien sûr, à travailler le violon à l'Académie Franz Liszt avec Géza Kapach. La musique de chambre avec le quatuor Bartok, ce qui était vraiment très très intéressant, enfin une grande chance. Et aussi, j'apprenais le hongrois. Et même à l'université, nous avions des cours de hongrois pour les étrangers. Et le soir, plusieurs fois par semaine, ben, j'allais jouer dans un... En fait, c'était un club littéraire qui faisait aussi restaurant. Et là, il y avait deux frères, un au piano ou parfois au cymbalum et un violoniste. Et eux, je les avais rencontrés dans la rue. Et nous avions sympathisé. Et puis après, je suis allé jouer avec eux. Et à la fin, j'y allais régulièrement, plusieurs fois par semaine... jouer avec eux.
Et donc, ça, donc un petit coup d'alouette, vous l'avez déjà joué ça l'alouette ?
Je me suis essayé, mais nous jouons d'autres pièces. Eux l'a joué, mais en fait, ça demande pas mal de travail. Mais oui, je m'y suis essayé.
Alors, bon, vous avez 18 ans, hein, pour les auditeurs qui nous rejoignent à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, ouais. Vous avez quel âge, Virgile ?
28 ans.
28 ans. À l'âge de 19 ans, donc du coup, vous, pour X raisons, vous partez de Budapest.
Ouais, parce que, en fait, malheureusement, Géza est tombé malade. Ouais. Et heureusement, depuis, il va bien. Et donc, je me suis dit où aller. J'avais la possibilité de revenir à Paris. Et finalement, j'ai décidé d'aller à Londres, au Royal College of Music, où je me suis vu attribuer une bourse complète. Et entre autres, ben, j'ai pu perfectionner mon anglais. Et donc, je suis arrivé dans la classe de Itzhak Rachkovski, un professeur russe. Et là, ce n'était pas quelqu'un qui allait vous apprendre le violon, mais c'était un excellent coach, un peu comme un coach sportif. Il était vraiment excellent pour les grands concertos, pour les grandes sonates, pour certaines pièces de genre. Et c'était comme quelqu'un un coach qui sait améliorer votre 100 mètres.
Vous avez travaillé la main gauche avec Papa Vrami, la main droite avec Géza Kapach, et puis là, le côté, avec Géza effectivement, aussi on rentre dans la vraie carrière. Quoi.
Oui, disons qu'avec Géza aussi, bien sûr, on travaillait l'interprétation, il était merveilleux pour tout ce qui était bac, sonate et partita. Mais là, oui, c'est plutôt c'est du coaching, je dirais plus.
Mais très concrètement, ça se matérialise comment ?
Ça se matérialise, vous venez, vous avez un gros programme à lui jouer, vous jouez tout le programme, et puis il est là, et il vous fait jouer mieux, plus tout est... En peu de temps, il sublime votre jeu, disons.
Cette dimension sportive, voire même de compétition, ça vous a effrayé à un moment dans votre vie ou pas du tout ?
Non, mais je pense qu'en musique, c'est pas de la compétition. Je pense que tout le monde a son mot à dire. J'ai jamais pensé que c'était une compétition. Après, petit, oui, très jeune, je trouvais ça amusant. Mais là, non, c'était pas du tout de la compétition avec Rachkovski. Simplement, oui, il sublimait toujours les pièces, il les rendait... en peu de temps, mais il ne rentrait pas du tout dans les détails dans technique ou quoi que ce soit. Même d'interprétation, c'était toujours très général. Voilà.
Thank you. Transcription du Roi des Aulnes, Der Elkönig de Schubert par Heinrich Wilhelm Ernst et joué par Vadim Repin dans votre partie d'en jouer, Virgile Boutelis. Alors c'est vrai que c'est assez inhumain, vous me disiez qu'on fait des octaves dans cette version-là avec le troisième et le quatrième doigt.
Oui, enfin c'est pas très radiophonique là, mais oui, avec le troisième et le quatrième doigt, on fait des octaves.
Pour en ayant la main un peu tordue quoi.
Oui, enfin c'était... pour faire des exercices pour y arriver. Non, c'est vraiment une pièce virtuose par excellence, transcendantale. Et donc, je l'avais travaillé avec ce grand coach, comme on pourrait dire. Et j'avais joué avec beaucoup d'enthousiasme et de fougue. Et j'avais joué un peu partout à cette époque. Et bien sûr, de connaître l'histoire du Lied de Schubert, plus du poème de Goethe, ça aide non seulement à surmonter les difficultés techniques,
oui, enfin bon,
mais aussi à interpréter la pièce et à essayer de la rendre la plus... fidèle à l'original.
Alors, après Londres, Virgile Boutelis, vous avez 21 ans. Et
oui, donc j'étais
là, c'est un peu le grand gouffre. Vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais?
Oui, c'est ça. J'avais passé mon master, on dit diplôme d'artiste. Ici, c'est artiste diploma. J'avais 21 ans. Et bien là, je suis parti jouer pour un festival en Israël, à Keshet Elon. C'est le festival de Shlomo Mintz.
Et... et là, on revient à quand on n'a que l'amour.
Et là, eh ben, je rencontre et je tombe amoureux de...
de la plus belle fille d'Israël.
En n'oubliant pas, Edouard, qu'il y a plein de plus belles filles d'Israël en Israël. Mais oui, c'est ça.
Alors là, vous décidez de vous installer là-bas.
Et là, oui, ben, j'ai décidé de partir là-bas. Je suis parti faire un post-doc à l'université de Tel Aviv. Et j'ai obtenu une bourse complète et une bourse de vie pour la durée du cursus, qui était de 2 ans. Et puis surtout, j'y ai passé 2 années très heureuses. J'ai amélioré mon hébreu et puis j'ai enrichi ma musique.
Et vous rencontrez un très grand musicien, klezmer.
Oui, un très bon musicien klezmer. Thank you.
Gioria Feynman dans Freilich, dans le parti d'enjeu de Virgilio Boutellis. Alors, qui est-il pour vous, ce clarinettiste rabbin
virtuose? Non, c'est pas lui. Lui, c'est un grand clarinettiste qui maintenant peut-être près de 90 ans, qui joue encore, qui est merveilleux. Et non, en fait, ça me rappelle un jour à l'aéroport de Tel Aviv, j'ai croisé un rabbin clarinettiste qui est venu m'aborder simplement. J'avais un violon. Et comme quelques jours après, j'allais jouer le triple concerto de Beethoven, il est venu m'écouter. Et après le concert, il m'a proposé de jouer avec lui, avec son groupe Klezmer, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir. Et puis par la suite, nous avons joué pour des fêtes, des mariages, et puis juste pour le plaisir.
Je crois que c'est à l'occasion de ce triple concerto de Beethoven.
Oui, c'était une occasion spéciale. Ouais. Ouais. Lui, il est venu m'écouter, mais... Et puis non, ça s'est très bien passé, c'était une sacrée expérience, disons. C'était avec l'Emeritus Orchestra d'Israël.
Alors oui, qu'est-ce que c'est?
C'est un orchestre de tous les solos, les chefs d'attaque du Philharmonique d'Israël. Une fois qu'ils sont à la retraite, ils vont dans cet orchestre. Donc ils avaient tous un rôle très important, il y a le premier alto, tout ça.
Et donc autant dire que c'est très démocratique, que tout le monde voilà, dit ce qu'il pense.
Tout le monde donne son avis, tout le monde veut diriger lui-même. Le chef, il ne tenait pas du tout son orchestre.
Prova d'orchestre. Ouais.
Et surtout, je me rappelle d'un alto solo, c'était une légende, et il avait presque 90 ans. Il joue encore très bien d'ailleurs, mais personne n'osait le contester, c'est lui qui dirigeait l'orchestre.
Alors en deux mots, Virgilio Boutellis, aujourd'hui les États-Unis en fait, beaucoup?
Oui, parce que naturellement en fait après Israël... D'ailleurs, c'est là où j'ai rencontré en Israël mes mécènes qui m'ont par la suite offert un très beau Montagnana, l'ex-Régis Pasquier. Régis Pasquier, d'ailleurs, avec qui je travaille en ce moment, c'est un bonheur de travailler avec lui. Et donc oui, c'est directement après Israël, j'ai été invité à jouer le concerto de Mendelssohn aux États-Unis. Et ça tombait très bien, c'est depuis toujours mon concerto préféré.
Et vous rencontrez là-bas Paul Cantolone, qui est un compositeur de musique de film.
Oui, à l'occasion d'un concert à Seattle pour Réfugiés Internationaux. C'est là où j'ai fait sa connaissance. Et donc c'est un compositeur notamment de musique de film. Et c'est surtout un personnage émouvant, hors du temps, très modeste. Et pour le décrire, on pourrait... En plagiant Victor Hugo, on pourrait dire, rien qu'à le voir passer, on devrait dire merci.
Thank you.
musique du film The Other Boleyn Girl de Paul Cantolone dont vous nous parliez, Virgile Boutelis. Un très grand merci à vous, Paul Cantolone, qui vous a dédié, qui est en train de vous composer une sonate, je crois.
Oui, qui m'a composé un nocturne et là qui est en train de composer une sonate que nous allons créer ensemble à New York.
Voilà, donc New York, États-Unis 4 mois dans l'année, mais quand même vous êtes de retour en France.
Non, maintenant j'habite en France, voilà. Je suis de retour en France, j'habite à Paris depuis 2 ans et... Voilà, j'essaie de perfectionner mon français.
Et puis un duo aussi avec Cathy Creer qui était passée dans cette émission.
Oui, nous venons de former un duo.
Il n'y a pas longtemps. Bah, très grand merci à vous, Virgile Boutelis. Pour les auditeurs qui nous ont écoutés, bah, vous faites un concert le mercredi en 3 jours à l'Hôtel de Soubise, cadre du festival Jeunes Talents avec le pianiste Antoine de Grollet. Et un concert placé sous le signe de l'Orient et de l'Occident.
C'est ça, oui.
Un grand merci à vous, Virgile. Alors voilà, c'est la fin de cette émission Le Parti d'Enjoué. Qui dit Parti d'Enjoué dit aussi que chaque gagnant a participé et que si Joué demande d'en prendre son parti, alors il faut accepter que la partie se finisse. Vous dire en tout cas merci pour votre écoute, vos mails, votre attention toute l'année à nos côtés. Surtout dire merci à l'équipe hors pair et complémentaire, Eric Lancien à la réalisation, Jean-René Bonisson à la préparation. Surtout ne changez rien, il y avait aujourd'hui Philippe Mercher à la prise de son et mixage. Bon dimanche soir et bonnes vacances à l'écoute de France Musique. Bientôt 22h, Jérémy Rousseau, comme si vous y étiez. Bonsoir, Jérémy.